Dimanche dernier, nous avons parlé de l'assurance du salut. Et pour résumer un peu ce que nous avons entendu la semaine passée, c'est que cette assurance du salut ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend entièrement et uniquement sur ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ça, la pure grâce. Et en entendant cela, il se peut que nous serions tentés à penser que nous n'avons plus besoin alors d'évangéliser, puisque les dés sont jetés d'avance alors. La question qui se pose, est-ce qu'il y aurait un casting ou une présélection quelque part dans le ciel où Dieu s'amuse, qui va être sauvé et qui sera perdu? Est-ce que nous ferons partie des personnes qui jouiront de cet amour de Dieu? Pour répondre à cette question, je crois que le texte qui était prévu d'ailleurs par le lectionnaire pour aujourd'hui tombe bien à notre thématique d'aujourd'hui. Donc je n'ai pas changé de texte et on va lire l'Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 13 à 33. Acte des Apôtres, chapitre 2, partie du verset 14, pardon, au verset 33, au nom de Jésus. Pierre se leva avec les 11 autres apôtres, il se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule, « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, apprenez ceci et écoutez bien ce que je vais vous dire. » Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est seulement 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là et ils prophétiseront. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu, des nuages, de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a montré l'autorité, car Dieu a accompli par lui toutes sortes de miracles et de prodiges au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise, et au plan qu'il avait formé d'avance, vous l'avez tué en le faisant clouer à une croix par des hommes pécheurs. Mais Dieu l'a ramené à la vie, il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort la retienne en son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet, « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi, il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. » C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles sont pleines de joie et même dans la faiblesse de mon corps, je reposerai avec espérance. Car tu n'abandonneras pas dans le monde des morts, tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, je pourrisse dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui mènent à la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frère, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui parmi nous. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis avec serment d'accorder à l'un de ses descendants la position du roi qui était la sienne. David a vu d'avance ce qui allait arriver et il a donc parlé de la résurrection du Messie quand il a dit « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts et son corps n'a pas pourri dans la tombe. Dieu a ramené à la vie ce Jésus dont je parle et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez, entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Amen. Alors ce texte, pour résumer, nous montre clairement que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il est venu pour tous. Et j'insiste sur ce « pour tous ». Le « pour tous » en question ici au verset 17 et 18 souligne bien « vos fils, filles, parleront prophètes, les jeunes gens, les vieillards, les esclaves, hommes et femmes, ainsi de suite. Quiconque parmi eux invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Pour nous aujourd'hui, c'est si simple d'entendre ces mots, mais pour l'époque où on a annoncé cela, c'était vraiment une bombe. Parce que le Saint-Esprit est accessible pour tout le monde. Ce n'est pas anodin cette façon de parler chez le prophète Joël et qui a été repris par l'apôtre Pierre. Grâce au salut du Christ, grâce à ce salut, puisque Jésus est monté à la droite du Père, et c'est grâce à cela que tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Puisque le Christ est monté à la droite du Père. Et ce privilège n'est plus attribué qu'aux élites. Comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les prophètes, les rois, les juges, ils étaient les seuls à avoir l'Esprit de Dieu sur eux. L'Esprit de Dieu peut être donné maintenant à monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça la grâce. Mais il faut clarifier que le Saint-Esprit est accordé pour tout le monde, c'est vrai, mais pas pour n'importe qui. Je m'explique. Pour tout le monde, il n'est plus réservé qu'à un groupe d'individus, rois, prophètes, juges. Mais quiconque croit en Jésus, celui-là ou celle-là peut recevoir le Saint-Esprit. Et c'est très, très important d'insister là-dessus, car la grâce est conditionnée en Jésus seul. Parfois on dit, oui, Dieu est amour, donc il donne le salut pour tout le monde, même ceux qui ne le croient pas en lui. Non. La grâce est accessible qu'en Jésus seulement. Dans le texte que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres tout à l'heure, nous montre que lorsque les disciples se sont rassemblés, c'est là que le Saint-Esprit a été donné, selon les consignes de Jésus lui-même dans Luc chapitre 24, verset 29, où il est dit « Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, » il parlait des disciples, « restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Donc on voit ici que c'est une promesse que Jésus a faite pour les siens, pas pour tout le monde. De ce fait, la grâce, elle est là, mais une grâce qui est en Jésus. Cette grâce est accessible qu'en Jésus seul. Cependant, cette grâce que les disciples ont reçue ne les laisse pas passifs. Dans le texte, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sortaient tous à l'extérieur de la pièce où ils se sont enfermés. Avant, ils avaient peur, non seulement des représailles, mais aussi, ils avaient peur du regard des gens, de leur considération. Mais grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, l'Église est passée du statut de l'Église locale en l'Église universelle. C'était incroyable. En quelques fractions de minutes, l'Église locale est passée dans le niveau de l'Église universelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes les autres nations qui étaient là. Ils ont entendu leur langue dans différentes nations.
ouverte pour toutes les nations. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, désormais, n'est plus fermé que pour le peuple d'Israël. Il est pour toutes les nations. Et là, c'est encore la grâce, chers frères et sœurs en Christ. Le salut qui est pour toutes les nations. Qui aurait pu imaginer que nous, ici en Belgique, vous qui venez de différents pays, peuvent espérer un jour faire partie de la table du Seigneur? Ça, c'est une grâce. Les Juifs, les Israélites pensaient que c'était un privilège qui n'était accordé qu'à eux. Non. Dieu invite le monde entier. Et la grâce nous pousse aussi, comme les disciples ici, à aller vers le monde. Ce n'est pas possible qu'une église qui a reçu le Saint-Esprit se renferme sur lui-même. Ce n'est pas une église, ça. Une église doit aller dans le monde, puisqu'il a reçu cet esprit-là qui le pousse à sortir des quatre murs, vers toutes les nations. Et le Saint-Esprit nous donnera la langue adéquate pour savoir le langage parlé des gens autour de nous. On n'est pas obligé de parler en langue comme nous le croyons, mais ici, les disciples ont parlé dans des langues intelligibles par tout ce qui était à l'extérieur. Et c'est là le défi. Est-ce que nous avons un langage intelligible pour le monde de l'extérieur? Entre nous, on a des jargons. Oui, la grâce de Dieu. Oui, ça, on se comprend entre nous. Mais si vous parlez ça à votre voisin qui est tout près de vous, mais c'est quoi ça, la grâce? Le pardon, la Sainte Cène? Ils ne comprennent pas. À nous alors de trouver et de prier le Saint-Esprit qu'il nous donne, par quel moyen, par quel langage que nous pouvons parler à ces gens-là. Et nous ne se limiterons pas que dans une lecture primaire, je ne dis pas fondamentaliste, mais primaire, dans la compréhension de parler en langue des différents pays ici. Mais c'était le contexte de l'époque. Mais aujourd'hui, il va aussi falloir connaître le langage utilisé par l'environnement où nous vivons. Comment les gens d'aujourd'hui réfléchissent? Comment les gens d'aujourd'hui, quel sujet qui les parle? Et c'est ce que le réformateur Luther avait compris lorsque le vent de la réforme a soufflé. Il faut que l'évangile soit lu et prêché dans la langue du peuple. Quelle est la langue du peuple aujourd'hui? Car avant la réforme, c'était juste réservé qu'aux érudits et aux élites. Et à un certain moment, quand je faisais encore mes études à Strasbourg, c'était l'image que j'ai reçue, et d'ailleurs ça a été confirmé par les pasteurs alsaciens. Paraît-il, les protestants, à un certain moment, c'était une église pour les élites, les intellectuels. Alors là, nous enfermons l'évangile dans nos quatre murs. Mais il faut que cet évangile soit accessible à la masse populaire, à ceux qui n'ont jamais été à l'école, à ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Comment faire? Et c'est là que vous entrez en jeu, parce que vous vivez dans cette société-là. Vous savez comment les gens dans votre quartier parlent et réfléchissent. Donc la grâce peut aussi être comprise comme une ouverture du royaume des cieux à une très large cible. Et donc si nous disons la grâce seule, d'accord, ça ne doit pas rester simplement un slogan ou un dogme figé, mais cela nous pousse à être dynamique, cela nous pousse à être non statique, que nous avons reçu gratuitement et nous allons vers les autres pour donner ce que nous avons reçu. Et c'est ça la logique pentecostale, la logique de Pentecôte. Ce que moi et toi avons reçu nous a été donné gratuitement et donc elle n'est pas notre possession personnelle et nous devrions la partager aux autres. C'est l'esprit de la Pentecôte. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Donc celui qui vit par la grâce de Dieu est une personne qui donne ce qu'il a. Vous voyez, la grâce, ce n'est pas quelque chose où on doit garder pour soi,
la grâce est donnée. Par conséquent, l'appel à l'évangélisation devrait se faire tout seul, pour ceux qui ont reçu pleinement la grâce de Dieu. Il n'y a pas de sentiment d'obligation, non, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas pour une dette morale que je dois évangéliser. Si Dieu nous donne la vie éternelle, ce n'est pas parce qu'il l'utilise comme un moyen de pression. Dieu ne fait pas de lobbying. Mais si l'apôtre Paul dit que l'amour du Christ nous domine, c'est-à-dire nous presse, alors il est étonnant de voir des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne sont pas propulsés ou poussés par cette grâce. Des enfants de Dieu passifs. Et alors, à ce moment-là, c'est par la grâce seule. On utilise bien ce mot-là, oui, mais on est sauvé que par la grâce pour justifier le fait de ne rien faire. Mais seules les œuvres poussées par cette grâce-là qui comptent. Comme les disciples, ils ont été poussés à l'extérieur par le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient plus rester entre eux. Et ce qui est impressionnant dans l'histoire de l'Église, ils se sont enfermés d'abord dans la pièce pour se cacher de ses détracteurs, les Juifs et les leaders religieux. Mais une fois qu'ils ont été touchés par cette grâce, le Seigneur les avait ouvert les yeux et qu'il y avait d'autres personnes autour d'eux, des personnes qui venaient de tous les autres horizons et qui avaient vraiment besoin de cet amour. La remarque qui était faite par les Juifs envers les disciples était étonnante. Oh, ils étaient comme ivres parce qu'ils étaient dépassés par l'événement. Ils n'ont rien trouvé que d'une fausse accusation comme quoi les disciples sont ivres. Mais sachez-le, ils savent pertinemment que leur accusation ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce que pour un Juif, lors d'un jour de fête surtout, c'était au moment de la Pentecôte, le Juif, un Juif ne romprait jamais son jeûne avant 10 heures du matin. Donc, avant 10 heures du matin, personne n'osait boire le vin selon la loi juive. Oui, ce qui se passait dépasse le raisonnement. Et c'est normal que Paul lui aussi dit « Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir des hontes les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. » Au départ, les gens ne vont pas comprendre, mais n'ayez pas peur. Parlez autour de vous. Partagez cet évangile que vous avez reçu. Laissez votre cœur parler et vous verrez que Dieu va vous utiliser. Amen.